Market, le débat business et technologie. Chaque semaine, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT. Club ZDNet avec Philippe Leroy.
Bonjour, bienvenue sur ce rendez-vous podcast de ZDNet.fr. On parle aujourd'hui de FTTH, comprenez les connexions Internet en fibre optique jusqu'au domicile de l'abonné. En septembre dernier, Free annonçait le lancement d'une offre de 50 mégabits pour le premier semestre de cette année. Depuis, les déclarations des opérateurs se sont multipliées. Le ministre de l'Industrie a fixé l'objectif de 4 millions d'abonnés au très haut débit d'ici 2012. Alors pourquoi les fournisseurs d'accès se lancent maintenant? Quelle est la réalité des réseaux de fibre optique en France aujourd'hui? Y a-t-il une demande des consommateurs pour le très haut débit? Pour répondre à ces questions et faire le point complet sur ce dossier, nous recevons aujourd'hui deux spécialistes de cette question. Stéphane Lelux, président du cabinet de conseil Tactis, Pierre Beaufils, président du cabinet de conseil Greenwich Consulting. Nous aurons aussi par téléphone Daniel Caclin, le PDG de Erenis, un fournisseur d'accès Internet sur fibre optique à Paris. Et pour commencer tout de suite, on fait le point avec Christophe Guillemin. Christophe, bonjour.
Bonjour Philippe.
Beaucoup d'actualités sur la fibre optique en 2006, en tout cas beaucoup d'annonces. Est-ce que vous pouvez nous récapituler un peu ce qui s'est passé?
Alors oui, 2006, ça a été l'année des promesses autour de la fibre optique. La plus importante, en tout cas celle qui a fait le plus de buzz, c'est Free. L'opérateur du groupe Iliad a annoncé en septembre qu'il lancerait des offres très haut débit à 50 mégabits, mais surtout en gardant le prix actuel de son offre, qui est de 29,99 €. Le déploiement durera jusqu'en 2012. Free compte investir 1 milliard d'euros pour déployer son offre. La stratégie est encore assez compliquée. Les analystes se demandent s'ils vont réussir à maintenir leur prix. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faudra une nouvelle Freebox et que les abonnés seront migrés gratuitement de la DSL, donc vers la fibre optique.
D'accord. Alors, Free a fait son annonce assez tonitruante, mais parallèlement à ça, et même un peu avant, l'opérateur historique Orange avait aussi déclaré ses intentions.
Oui, alors tout à fait. Orange a commencé des expérimentations autour de la fibre optique. Alors eux, c'est une offre à 100 mégabits cette fois. Pour l'instant, il y a une centaine de clients qui sont raccordés dans la région parisienne. Là, il en coûte 70 € au bêta-testeur pour avoir de la télévision, un accès donc symétrique à 100 mégabits, de la téléphonie. Et Orange a annoncé que pour 2007, il allait étendre ses expérimentations à différentes villes de province.
Autre annonce, autre acteur, 9CGTEL, 9, la marque commerciale c'est 9. On a aussi des informations sur leur intention ou leur déclaration.
Alors 9CGTEL a toujours été le plus réservé autour de la fibre optique, mais après l'annonce de son grand concurrent Free, 9 a réagi et indiqué qu'il lancera des services très haut débit en 2007. Aucun investissement n'a pourtant pour l'instant été communiqué. On pense qu'il s'agira aussi de plusieurs centaines de millions d'euros. Pour se faire la main, 9 a en tout cas racheté, alors ça c'était en janvier 2007, l'opérateur Mediafibre, principal opérateur participant au projet Pau Broadband Country, qui a été le pionnier de la fibre optique en France, dans la collectivité donc de Pau. Mediafibre, c'est déjà 2800 abonnés qui aujourd'hui ont donc la télévision, l'accès au débit et la téléphonie. Donc l'accès au débit, c'est 100 mégabits, tout ça pour 40 €. Donc ça va permettre à 9 de se faire la main et de lancer ses offres commerciales plus larges en 2007.
Et est-ce qu'on a des nouvelles d'un acteur qui pourrait sembler naturel pour investir ce marché de la fibre optique? Je parle des câblos opérateurs.
Alors oui, Nous Numéricable est le premier à avoir communiqué dessus aussi en 2007, mais autour du nombre d'immeubles et nombre de foyers qu'ils ont connectés déjà en fibre optique. Alors c'est 450 000, 10 000 immeubles aujourd'hui connectés en fibre optique avec Nous Numéricable. L'objectif, c'est d'atteindre les 2 millions dès la fin de l'année. Pour l'instant, en revanche, on ne connaît pas le nombre d'abonnés réels. A priori, il se compterait peut-être par quelques dizaines, quelques centaines, mais en tout cas, l'offre n'a pas été vraiment déployée. Il faut encore parfois patienter jusqu'à 3 semaines pour avoir le raccordement à l'immeuble.
Merci Christophe.
Club ZDNet, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors le débat est posé, on retrouve nos deux invités en studio, Stéphane Lelux, président du cabinet de conseil Tactis, et Pierre Beaufils, président du cabinet de conseil Greenwich Consulting. Messieurs, bonjour. On a entendu le point de Christophe Guillemin sur les annonces, les déclarations des différents acteurs de ce marché. Est-ce qu'on peut faire un point avec vous sur la réalité aujourd'hui des réseaux de fibre optique en France? Stéphane Lelux, peut-être, pour commencer.
Bonjour Philippe.
Effectivement, l'année 2006 a été riche, comme Christophe vient de le rappeler, en annonces. Les véritables déploiements ne font que de commencer. On peut dire qu'en 2006, à part les pilotes FTTH, notamment de France Télécom, et puis des déploiements qui se sont faits essentiellement sur Paris et les Hauts-de-Seine, il n'y avait pas vraiment de réalité tangible pour les usagers. 2007, c'est vraiment la première année de déploiement en grandeur nature. Il y a tout d'abord à différencier les choses dans tout ce qui a été annoncé. Il y a la fibre optique qui va aller jusque dans le foyer, qui est vraiment la grande évolution qui a été annoncée l'an dernier, notamment par Free et aussi par France Télécom. Et puis il y a la fibre optique qui se rapproche de l'usager. C'est pas tout à fait pareil, notamment avec Nous Numéricable, on amène la fibre optique, on va dire pratiquement au pied d'immeuble. C'est aussi le cas d'Erenis, qui parlera tout à l'heure avec la fibre qui va jusqu'au pied d'immeuble, et à l'intérieur de l'immeuble, ensuite, on termine avec du cuivre, que ce soit du coaxial dans le cas de Nous Numéricable, ou avec de la paire de cuivre du style téléphonique qui termine dans l'immeuble. Donc, on voit que si on veut regarder la situation, il faut aussi distinguer le type de technologie qu'on va trouver. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, la fibre qui va jusqu'à l'usager, c'est encore quelques centaines de foyers en Île-de-France, quelques milliers si on inclut Pau dans le périmètre, et essentiellement pour le reste, c'est encore que de, on va dire, de la prospective. Le reste, c'est du cuivre qui arrive à partir du pied d'immeuble avec Nous ou avec nos autres acteurs comme Erenis.
Alors Pierre Beaufils, est-ce qu'on a une idée assez précise de du volume, du nombre de kilomètres de fibre optique déployés en France? Est-ce que les chiffres circulent, ils sont pas tous en accord, voire certains se contredisent? Est-ce que vous pouvez nous donner des informations que vous avez un peu plus précises sur finalement la réalité et l'état de ces réseaux fibrés en France aujourd'hui?
Bonjour Philippe. Il est assez difficile aujourd'hui de donner des chiffres précis. On parle de plusieurs millions de kilomètres. Néanmoins, je pense qu'en fait, les bons chiffres à retenir vont être les chiffres de connexion et de raccordement à l'abonné, ou en tout cas au plus proche de l'abonné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des réseaux, des core networks en fibre, il y en a beaucoup en France, et ça existe depuis des années. On en parlait tout à l'heure entre nous, on est effectivement sur des déploiements de fibres depuis la fin des années 90, début 2000, de point à point sur des points de raccordement. Par contre, le point clé et le débat clé, et je pense qu'effectivement Stéphane a parfaitement posé, c'est comment on connecte l'abonné, soit je dirais en bas du building, soit directement dans son foyer. Est-ce qu'on se connecte avec une paire de cuivre avec du VDSL2 en finale, ou au contraire on fait de la fibre jusqu'à l'abonné? Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui Free s'est lancé sur une technologie FTTH point à point, donc une fibre qui va du point de raccordement jusqu'à l'abonné, c'est-à-dire jusqu'à sa maison, sa porte, alors que Orange est plutôt sur une technologie FTTH point à point, point multipoint, ça veut dire donc avec une fibre partagée. On est donc aujourd'hui plutôt, je pense, sur le bon indicateur qu'il faudrait consolider, c'est un indicateur de nombre de points raccordables et raccordés sur un délai, comme on disait pour Nous, de quelques semaines. C'est-à-dire finalement, un peu comme en DSL, vous avez une demande de dégroupage. En combien de temps est-ce qu'elle est réellement accessible? Alors là, pour le coup, aujourd'hui, on va tomber en quelques dizaines de milliers, d'accord, peut-être quelques centaines de milliers.
Et oui.
Et c'est ça le chiffre clé. Et c'est sûr qu'on va plutôt être sur une surdentification, et je pense qu'on va y revenir, des boucles locales et des accès, plutôt que sur une couverture nationale. Il est donc évident que nos chers opérateurs principaux vont d'abord tirer la fibre sur des zones denses, urbaines, faciles d'accès. Et donc on va avoir un risque notamment d'avoir plusieurs foyers raccordés plusieurs fois, entre guillemets, alors que dans la Creuse et la Lozère, on ne sera jamais raccordé.
Alors justement, il y a eu sur ce point un petit peu des investissements et du montant des investissements assez colossal réalisés pour pouvoir espérer avoir une France en fibré. Des déclarations de l'ARCEP qui ont été reprises aussi par le gouvernement à la fin de l'année, qui appelaient de leur vœu une nécessaire collaboration entre les différents acteurs. Si je vous écoute bien, il n'y a pas d'accord a priori sur la technologie à employer. Néanmoins, si on veut veut que ce plan fibre fonctionne, est-ce qu'il va pas être nécessaire, un, de se mettre d'accord sur une technologie, une et une seule, et d'autre part, que les différents opérateurs téléphoniques, mais aussi collectivités locales, se mettent d'accord pour mutualiser un peu les investissements. Stéphane Lelux, votre analyse sur cette question de l'investissement nécessaire.
Alors c'est vrai que s'il n'y a pas d'accord sur les architectures, on va dire, vu du côté des opérateurs, il y a quand même des fondamentaux. On va dire que, pour faire simple, il y a l'horizontal et le vertical. L'horizontal, c'est ce qui va jusqu'à l'immeuble, et le vertical, c'est la desserte interne des immeubles, si on prend, on va dire, pour image, l'urbain. À l'intérieur de l'immeuble, même si on est dans une phase transitoire, on peut dire qu'à un horizon de quelques années, c'est-à-dire peut-être 3-4 ans, il y aura une tendance lourde qui va se dégager, c'est d'amener la fibre optique dans l'appartement. Donc ça veut dire une fibre par foyer à l'intérieur d'un immeuble. Hein. Donc ça, je pense que l'ensemble des acteurs sont assez d'accord là-dessus, y compris Nous Numérica ou même Erenis, dont on en a tout à l'heure, qui utilisent d'autres technologies aujourd'hui. Ils reconnaissent qu'à, on va dire, horizon 4-5 ans, 3-4-5 ans, on va progressivement aller vers une fibre vers chaque appartement à l'intérieur des immeubles. C'est pas le cas aujourd'hui, hein. Donc c'est vrai qu'il y a encore cette étape à franchir. La question qui se pose déjà à l'intérieur de l'immeuble, c'est est-ce qu'on va avoir autant de fibres à l'intérieur de l'immeuble qu'on a potentiellement d'opérateurs qui vont nous servir. Et là, on est dans l'absurdité économique. Et aussi, vu du côté des acteurs de l'immobilier, dans une certaine forme de gêne, il est évident que les copropriétés ou les grands propriétaires ne voudront pas voir cohabiter autant de câbles qu'il y a potentiellement d'opérateurs. Donc là, premier problème à résoudre, c'est, puisqu'on sait qu'on va tendre vers la nécessité de partager ces fibres, comment on met autour de la table les différents acteurs pour que, soit dans un investissement privé ou dans un investissement public, et là on vient à la question effectivement du partage de rôle ou collaboration, cohabitation d'action entre l'action publique et l'action privée, c'est comment on fait pour partager à l'intérieur de l'immeuble. Donc ça, c'est ce premier point.
Pour l'instant, ils ne sont pas d'accord. Pour être très clair, enfin, il n'y a pas eu de déclaration publique sur un accord des différents acteurs pour travailler ensemble sur ce point particulier.
Il n'y a pas de déclaration publique, mais il y a un principe de réalité. Le principe de réalité finira par ressortir. On sait bien que les acteurs aujourd'hui sont tous guidés par la valorisation de leurs, on va dire, différents actifs et notamment leur valeur en bourse. Et aujourd'hui, ils sont comme tous surveillés et on peut pas partir en guerre en disant on va dupliquer, alors que manifestement, on dépassera rarement 20 à 25% de part de marché. Si à l'intérieur d'un immeuble, il y a 100 logements et que je sais qu'à terme, je ne pourrai pas toucher plus de 20 à 25 clients, pourquoi je ne partagerai pas les 75 fibres restantes que je n'adresserai pas avec mes concurrents? Et là, c'est un bon sens économique. Donc, je crois que là-dessus,
Sur le bon sens économique, tout le monde va se retrouver.
Exactement. Alors, je le disais tout à l'heure aussi, il y a l'horizontal. Et l'horizontal, c'est ce qui va jusqu'à l'immeuble. Et là, ça va être très variable en fonction des situations géographiques. Soit on est dans des situations comme à Paris, où là, on a des égouts haussmanniens qui nous amènent jusqu'à chaque pied d'immeuble. Et là, l'action publique, d'une certaine manière, l'action privée, elle se fait. L'action privée n'a pas besoin d'action publique, puisque d'une certaine manière, l'action publique a été faite il y a plus de 100 ans quand on a construit les égouts. Donc là, les opérateurs n'ont qu'à tirer les câbles et c'est assez simple. Donc on voit bien qu'en fonction des territoires, la problématique horizontale va être très variable. Il suffit de sortir de Paris. Déjà, on va dans les Hauts-de-Seine. Il y a plus de 90% des communes des Hauts-de-Seine où il n'y a pas les égouts haussmanniens. Et donc là, c'est pour ça d'ailleurs que les Hauts-de-Seine ont lancé un projet public pour pouvoir faciliter le partage de l'infrastructure qui va aller jusqu'en pied d'immeuble. Donc on voit bien que il y a deux niveaux sur lesquels l'action peut être coordonnée entre les opérateurs et où la collectivité ou les collectivités au sens large du terme, la puissance publique peut agir, avec aussi, on va dire, l'aval de l'ARCEP et les autorités qui supervisent, on va dire, le marché des télécoms en France et en Europe. C'est à la fois le partage d'infrastructures qui va jusqu'au pied d'immeuble et la question la partageabilité ou de l'unicité d'un réseau interne aux immeubles.
Pierre Beaufils, sur cette question justement de la nécessaire entente entre les différents acteurs du marché. Alors, ce que nous expliquait Stéphane Lelux à l'instant, c'est tout le monde en même temps, hein, les collectivités locales, les opérateurs installés, les professionnels de l'immobilier aussi qui doivent participer à ce débat-là. Qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à ce que vient de dire Stéphane Lelux ? Est-ce que vous partagez son optimisme sur le fait que la réalité économique va permettre de se mettre d'accord assez rapidement, ou est-ce que je vous sens un petit peu plus circonspect sur cette question?
Merci. La notion d'entente des acteurs est une notion très sensible à manier en ce moment.
Oui.
Donc non, par contre, je pense que dans la durée, Stéphane a forcément raison. C'est-à-dire que il est impossible que la réalité économique ne nous rattrape pas. Pour moi, la question est plutôt une notion de tactique et de que va-t-il se passer sur les 12, 24, 36 mois et le mal sera fait ou le bien sera fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas d'élection. Donc, sur les 12 prochains mois, nous n'aurons pas, et ce n'est pas faire injure à l'ARCEP de dire ça, c'est dans les priorités aujourd'hui que l'ARCEP a, elle a un tas de sujets à traiter, et on ne peut pas mettre dans les dossiers ultra-urgents la régulation du déploiement de la boucle locale fibre, qui d'une certaine manière va concerner en 2007 quelques centaines de personnes, et il n'est pas logique que l'action publique soit non plus en permanence tournée vers les quelques annonces publicitaires de certains groupes. Donc, à ce titre-là, il ne se passera, à mon sens, pas grand-chose en 2007. Or, nous avons trois acteurs majeurs et puis le reste. Les trois acteurs majeurs, Orange, Free et Neuf, aujourd'hui sont quand même, surtout Free et Neuf, dans une guerre commerciale extrêmement forte.
Autour de la DSL.
Autour de la DSL. Mmh. Donc, quand on s'envoie des huissiers respectivement à chacune des annonces, c'est quand même qu'on est dans une situation, de compétition très forte. Oui. Donc, à partir de là, je ne vois pas pourquoi l'un et l'autre freineraient sur un élément de différenciation et de prise de parole publique majeure, et que pour l'instant Free est un peu dans une logique du fameux film Suivez-moi, hein, essaie de m'attraper, c'est-à-dire que je mets 1 milliard 300 millions par an, si j'en mets que la moitié, c'est pas grave parce que de toute façon je fais la course en tête. Il est à mon sens évident que dans les 6 mois, mois par mois, même dans les 18 mois, mois par mois, Free va nous annoncer tant de clients raccordables, tant de clients raccordés, que Neuf va donc être obligé de faire la course sur le même point. Orange a peut-être une logique un petit peu plus industrielle, mais aujourd'hui, ils ont de fait la pression, pourtant c'était sûrement les premiers partis avec Free il y a un an, mais ils ont une pression industrielle réelle pour déployer aussi, et moi je vois pas sous les 24 mois, soit 2 ans, ce qui va empêcher ces trois-là de déployer 3 boucles locales au même endroit. Alors, ils vont peut-être avoir une tactique, je dirais, qui, comme par hasard, il y en a un qui commence sur l'Haute-Seine, l'autre qui commence sur Paris-Centre, le troisième s'occupe, pas du 9-3, mais du 9-2-118.
Il y a partage du gâteau, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, effectivement, on peut imaginer.
En tout cas, il n'y a pas envie de partir frontalement sur les premiers déploiements, de partir ensemble, hein. Stéphane?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on peut prendre une image, pour moi, c'est Far West Monopoly. C'est-à-dire qu'on est dans une période où on va avoir les prospecteurs d'immeubles qui vont vouloir planter leur drapeau. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre. On va vivre pour les 18-24 prochains mois une période qui sera déterminante pour la suite. C'est-à-dire, soit ce sera structuré d'une manière très conflictuelle avec des difficultés ensuite pour réingénierer, c'est-à-dire repartager ces infrastructures, et notamment le grand risque va se trouver chez les grands bailleurs sociaux, parce que où se situe le levier aujourd'hui, c'est les grands ensembles immobiliers collectifs qui peuvent signer des accords qui pourraient être, on va dire, de facto anticoncurrentiels et qui pourraient bloquer l'arrivée des concurrents. Donc, effectivement, dans les 18-24 prochains mois, cette bataille type Far West où on va planter nos drapeaux, Free va planter son drapeau.
Prise de position.
Télégramme, exactement. Et le rôle de la puissance publique, et je suis encore d'accord avec Pierre sur le fait qu'on est dans
parfait,
un tunnel.
On est d'accord.
Complètement d'accord. Sur un tunnel politique, c'est-à-dire qu'on n'a pas la capacité aujourd'hui d'encadrer au niveau politique, parce que il n'y aura ni au niveau national ni au niveau local pendant les 2 années qui viennent une capacité à véritablement orienter le marché. Donc le risque, c'est que localement on ait véritablement des situations de conflit qui naissent, et donc il faut arriver par les collectivités locales à éventuellement pousser des acteurs à partager certaines infrastructures. Il faut éviter que les
grands bailleurs, que les grands propriétaires immobiliers signent des accords qui soient irréversibles avec certains opérateurs. Donc, il y a une vigilance à avoir, une alerte à avoir auprès des acteurs, et c'est vrai que c'est pas évident aujourd'hui du fait qu'on a cet environnement politique qui est pas nécessairement le plus favorable.
Donc, ce que Pierre, vous voulez intervenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait se retrouver dans des situations où il y a des contrats qui soient signés et qu'on ait du mal à revenir sur cette notion indispensable, hein, vous l'avez souligné, de partage pour éviter la pagaille dans les immeubles qui, à terme, dissuaderait les syndics d'accepter ces plans fibres.
Comme
c'est
dit,
ça, Pierre ?
Oui, tout à fait. Comme l'a dit Stéphane précédemment, j'aimerais juste ajouter un ou deux éléments. C'est que on va connaître une vraie fracture numérique, pour reprendre un terme cher à notre président. La situation aujourd'hui, c'est que dans les grands ensembles privés, on n'a pas besoin. Enfin, la puissance publique a déjà agi il y a quelques dizaines, centaines d'années, et le potentiel commercial est tel que les acteurs privés, Free, Orange ou Neuf, peuvent avancer seuls et investir seuls. Parce que la rentabilité est au bout. La difficulté vient immédiatement sur deuxième, troisième ville ou dixième ville. Que va-t-on faire à Toulouse, je dirais même Lyon, Marseille, Nantes, Rennes, Lille? Qu'est-ce qui va se passer là? Et là, effectivement, l'action publique me semble déterminante du point de vue des maires, parce que pour le coup, c'est leur intérêt direct des maires et des collectivités, des régions et des départements, de mettre en place des cadres d'intervention et qui peuvent, dans certains cas, mener effectivement à des prises de position déterminées de certains acteurs. J'insisterai aussi sur un autre point, c'est que aujourd'hui, le cauchemar, à mon avis, il est aussi surtout pour les 3-4 autres, c'est-à-dire pour Club Internet, pour Alice, pour Howell, enfin, en tout cas ce qu'il en restait maintenant chez Neuf, mais c'est pour les autres acteurs qui, eux, pour le coup, ne peuvent pas se payer cet investissement, non pas qu'ils n'en auraient pas les moyens vis-à-vis de leur groupe, mais parce que quand on est une phase de conquête, de survie sur un marché à 4 ou 5 points de part de marché, il faut dire que le marché est structuré avec, en ADSL, accès au débit, 50% pour France Télécom, Orange, 20 et 20, on peut discuter des 19,5, 20,5, ouais. Mais de 9 CGT à la OL d'un côté, avec Free de l'autre. Et puis derrière, c'est quelques pourcents. Donc je pense que le cauchemar, il est aussi pour ces 3 ou 4 acteurs qui se demandent bien et qui, eux, demandent à ce qu'on partage la fibre. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas faire autrement.
Christophe, une question.
Oui, Free nous a confié qu'en fait, ils iraient sur des zones où ils ont déjà 15% de part de marché. Ce que j'aimerais comprendre, c'est quelles sont les zones qui ont un intérêt économique pour le déploiement de la fibre optique. Peut-être Pierre Beaufils.
Alors, l'intérêt pour Free est très simple. Je vais reprendre exactement le chiffre que donnait Stéphane. C'est-à-dire, quand j'ai 15% de part de marché, je fais le pari qu'en tirant une fibre jusqu'à un building, dans ce building, puisque je tire N fibres pour N abonnés, je tire dans un building où j'ai 15% d'abonnés, donc on va dire sur une trentaine de foyers, 4, 5, 6 foyers déjà connectés à Free, dans lequel je fais le pari que déjà mes 5 foyers Free passeront à une fibre Free, et ensuite j'espère bien en conquérir 2, 3, 4, 5 autres, qui fait que j'aurai de fait sur les plaques connectées un 25% de part de marché. Donc premièrement, je convertis ma part de marché en fibre. Deuxièmement, je gagne de la part de marché. Et au pire, si jamais je ne les convertis pas en fibre, je viens les chercher de toute façon en ADSL avec une offre concurrentielle.
Et il y a peut-être un point à ajouter, c'est qu'on paye aujourd'hui, quand on s'appelle Free, on paye à France Télécom à peu près 9 euros par mois par abonné. Et donc ce qu'il faut rappeler, c'est que dans le modèle économique des opérateurs aujourd'hui qui dégroupent, il y a le financement, un peu comme on rembourse un loyer quand on est locataire d'un appartement, alors que là, ils vont constituer un patrimoine, c'est-à-dire que l'argent qu'ils versent à France Télécom, ils vont verser à leur banque ou à leur actionnaire pour constituer un vrai capital qui va être leur réseau. Donc ils vont, plutôt que verser les 9 euros ou 10 euros par mois au dégroupage, ils vont le conserver. Et donc là, c'est véritablement aussi cet enjeu qui est, quelque sorte, de devenir le futur opérateur intégrateur. Et demain, ils vont louer aux autres. Et là, à ce moment-là, cette fois, toucher les recettes du dégroupage.
Club ZDNet, le débat business et technologie. Le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors, on parlait de ces acteurs fournisseurs d'accès à fibre optique. On a justement en ligne avec nous Daniel Caclin. Daniel Caclin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président directeur général d'Erenis, qui est un fournisseur d'accès Internet par fibre optique à Paris. exclusivement parisien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez aujourd'hui pour fournir de l'accès Internet et téléphone et télévision aussi à vos clients et nous préciser un petit peu votre offre ?
Notre offre, elle est basée sur un triple play télévision, téléphone, Internet, que nous déclinons aussi sous une forme de téléphone plus TV, en pensant aux personnes âgées qui n'ont pas d'ordinateur. On a aussi une offre de téléphone pur, mais toujours la base de l'offre, c'est notre triple play, du 60 mégabits par seconde. Et la différence par rapport à la DSL, c'est que c'est une qualité constante. 90% de nos clients ont le débit nominal. Et dans le cadre du forfait, les performances en téléphonie, c'est le trafic forfaitaire vers 100 pays, vers les téléphones fixes. Et en télévision, c'est le package de base de 50 chaînes dans lequel on trouve toutes les chaînes habituelles. Et nous avons des bouquets premium tournés vers certaines populations en fonction de leur pays d'origine ou les pays où ils ont des attaches, et puis bien sûr des bouquets cinéma et bientôt un bouquet sport.
D'accord. Parmi vos clients, est-ce que on s'adresse à RNIS uniquement, enfin pas uniquement, est-ce qu'on s'adresse à vous pour l'accès Internet et les autres services, ou est-ce qu'il y a des gens qui s'adressent à vous uniquement pour de la télévision, du téléphone ?
Oui, et ça c'est quelque chose qui me paraît essentiel. En fait, nous on n'est pas des fournisseurs d'Internet, et puis si vous le voulez, en plus, un peu de télé, un peu de téléphone. Nous on est des services, des fournisseurs de services de communication aux familles. Et la télévision, c'est autant le cœur de l'offre que le téléphone ou l'Internet. Et là, en fait, je crois qu'on répond à une vraie attente du marché. J'entendais qu'on parlait de part de marché. Il faut savoir que dans les immeubles où nous sommes présents depuis 6 mois et plus, nous avons 25% de part de marché. Donc ça montre que les clients, quand on leur amène beaucoup plus que la DSL, pour le prix de la DSL, eh bien ils disent c'est exactement ce qu'il nous faut maintenant.
Alors on parlait avec nos invités en studio de la complexité quand même de mettre en place ces offres, hein, puisque avec la fibre optique il faut négocier avec les pouvoirs publics sur la partie publique, il faut aussi négocier avec les syndics d'immeubles pour pouvoir pénétrer jusqu'à l'abonné. Est-ce que vous rencontrez des difficultés dans ce domaine-là et comment vous les réglez ?
Nous sommes sur ce marché depuis 4 ans. On a câblé 55 000 logements, on a plus de 10 000 clients en service. Donc les difficultés, on les a eues, mais nous, on a appris à les résoudre. C'est vrai que c'est une expertise particulière. C'est pas comme la DSL, un marché qui est basé sur la marque et puis en définitive l'usage du réseau de France Télécom, puisque c'est ça la base de la DSL. C'est la constitution de bout en bout, depuis le domicile du client jusqu'au point central réseau, d'une infrastructure complètement nouvelle. Et effectivement, bon, il y a un vrai métier derrière. Il y a les syndics, il y a les conseils syndicaux, il faut faire passer dans les grands immeubles les projets en assemblée générale. Et tout ça, ça prend du temps, et puis ça veut dire qu'il y a de l'expertise de personnes pour savoir le faire dans des conditions économiquement acceptables.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui pousse un Parisien qui est vraiment avec une offre pléthorique, hein, d'accès Internet, téléphone, télévision, il n'y a pas plus concurrentiel, je pense, que le marché parisien. Qu'est-ce qui les pousse, vos clients, à se tourner vers vous, sachant que, précisez-nous, vous n'êtes pas présent sur l'ensemble de la capitale, hein, il y a un certain nombre d'arrondissements qui ne sont pas couverts.
Nous sommes présents dans tous les arrondissements à deux chiffres, donc du 10e jusqu'au 20e. Nous sommes présents dans le 8e arrondissement et nous sommes présents dans le 2e arrondissement. Bien sûr, au fil des semaines et des mois, notre présence se densifie. Maintenant, il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que les 7 premiers arrondissements tous ensemble représentent moins d'habitants qu'un arrondissement comme le 15e. Hein. Donc, le cœur historique de Paris est une zone qui n'est pas très très peuplé.
Donc vous êtes, ce que vous nous dites, que vous vous concentrez sur les arrondissements à forte densité de population.
C'est pas une question de densité. Paris est à peu près à la même densité partout. La seule différence entre les arrondissements, c'est leur taille. Donc c'est pas étonnant qu'on ait commencé par les arrondissements où il y a le plus de gens qui habitent, puisque c'est là qu'il y a le plus d'immeubles. Donc en fait, le point de départ de votre question, c'est pourquoi on vient vers Rennes.
Oui.
On vient vers Rennes parce que c'est beaucoup plus que la DSL. La performance en télévision est constante.
C'est du débit garanti.
La DSL, elle ne l'est pas toujours. Parfois, finalement, la DSL, vous entendrez un tiers des gens qui vous disent ça marche bien, un tiers qui vous dit oui, je m'en sers de temps en temps, puis un tiers qui vous dit je m'en sers jamais. Alors que nous, nos clients avec télévision, ils utilisent tous la télévision. C'est leur principale source de télévision.
Alors en novembre dernier, on terminera sur cette question, vous aviez annoncé un passage à 100 mégabits pour tout le monde, alors pour les clients actuels et puis aussi pour les nouveaux arrivants. Et puis vous nous aviez dit que vous donneriez le prix de cette offre à 100 mégabits au mois de janvier. On est le 15 février, Daniel Caclin, et j'ai pas reçu de communiqué d'Erenis. Alors est-ce qu'il y a un petit peu de retard?
Notre engagement sur le prix n'est pas tenu. Alors... Que je précise quand même, nous installons tous les nouveaux sites en ce moment en utilisant la technologie 100 mégabits par seconde. Et ce que j'ai annoncé en novembre, c'est que la mise à niveau des sites existants se fera progressivement tout au long de l'année. Donc, je vais quand même en dire un tout petit peu plus, c'est que l'offre à 100 mégabits sera légèrement plus chère que l'offre à 60 mégabits.
Qui est à 29,90 ?
Parce que nous ne voulons pas frustrer nos clients actuels, alors même qu'on ne peut pas les upgrader immédiatement. Ce que nous avions annoncé et ce que nous faisons effectivement, c'est à partir de la fin janvier, et c'est donc ce que nous vivons actuellement, tous les nouveaux sites sont câblés en technologie 100 mégabits.
D'accord. Et puis
ça marche. On est en train de procéder à la recette technique des premiers sites. Donc on est très proche de l'annonce de la connexion des premiers clients et du prix naturellement.
Et en fait, je vous pose là la dernière question. Vous êtes le dernier indépendant sur la place de Paris. Vous aviez un concurrent qui s'appelait Cité-Fibre, qui a été racheté par Free. Comment on fait quand on est un fournisseur d'accès comme vous, indépendant, et que tout autour, c'est les gros mastodontes du marché qui sont aux affaires? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que ça veut dire que vos jours d'indépendance finalement sont comptés?
En fait, nous ne sommes pas le dernier indépendant, nous sommes le premier indépendant, puisque c'est nous qui avons le plus de clients sur la ville de Paris en fibre optique. Et puis, en fait, comme vous le suggériez par une des questions précédentes, ce dont il s'agit, c'est de câbler immeuble par immeuble. Et au fond, on n'est pas devant un jeu de marque, de présence marketing, on est devant un jeu de présence tout court sur le terrain. Et nous, comme on est de loin l'entreprise qui a les ressources les plus importantes humainement déployées sur le terrain, de ce fait-là, nous savons assurer notre croissance. Donc, Erenis est content d'être le premier indépendant sur Paris.
Eh bien, merci. On aura l'occasion de reparler d'Erenis en 2007, puisqu'on parlera beaucoup de fibre optique. Merci, Daniel Caclin.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Club ZDNet, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.
Alors Stéphane Lelux, Pierre Beaufils, on vient d'entendre Daniel Caclin, donc le premier et le dernier fournisseur d'accès de services par fibre optique indépendant à Paris. On va pas revenir dans le détail sur tout ce qu'a dit Monsieur Caclin, mais en termes d'usage quand même, on parle de débits qui sont assez astronomiques. Aujourd'hui, on a avec la DSL des débits qui sont quand même satisfaisants, contrairement à ce que disait Daniel Caclin, ça fonctionne quand même plutôt bien. Est-ce qu'on a besoin de tous ces, de tout ce débit, et comment convaincre les gens, finalement, les clients, de basculer? Ce qu'on comprend aussi, c'est que ça va être un petit peu plus cher que le prix de l'abonnement ADSL actuel. Alors, pour quels usages l'ADSL? Qu'est-ce que les opérateurs ou même les collectivités locales peuvent user comme argumentaire pour dire on a besoin de cette fibre optique pour faire quoi?
Alors, tout d'abord,
Stéphane Lelux.
Tout d'abord, le marché technologique qui nous concerne, c'est un marché qui a toujours été tiré par l'offre. La téléphonie mobile, ensuite l'Internet, et aujourd'hui, effectivement, la connexion permanente avec la DSL, et maintenant, on va effectivement évoquer la notion de très haut débit. Donc, analyser la demande pour savoir s'il faut déployer un réseau, comme souvent les opérateurs historiques nous l'ont chanté, on sait que ça mène pas loin en termes de développement d'innovation. Donc je crois que là-dessus, il faut regarder peut-être ce qui s'est passé sur les dernières années pour comprendre mieux ce qui pourrait nous arriver dans le futur. D'abord, la croissance actuelle des débits Internet, globalement en France, c'est de l'ordre de 45 à 50% de volume par an. Ça veut dire des débits de facteurs sur 10 ans, facteurs 50 à peu près 50-60, plus. Donc ça veut dire que quelqu'un qui consommait un mégabit il y a 10 ans, bah, il va consommer 10 ans après à peu près 60 mégabits. Bon, c'est pour donner le trend de fond.
C'est quoi? C'est l'effet peer-to-peer, ça? Les échanges de fichiers, films, musique?
Il y a beaucoup de choses qui jouent. Il y a d'abord la numérisation de la vie quotidienne. Vous faisiez des photos argentiques il y a 10 ans, vous en faites de moins en moins aujourd'hui et vous en ferez peut-être plus du tout demain, à part dans un domaine purement artistique, comme on a aujourd'hui plus beaucoup de disques en vinyle et qu'on écoute beaucoup plus de MP3. Bon, donc il est clair que la numérisation globalement de notre environnement de vie et de travail impacte sur les flux qui peuvent transiter. Mais je pense qu'au-delà de cela, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution technologique, ce qu'elle rend possible. Ce n'est pas qu'une question de débit. Il y a aussi dans l'évolution, et pourquoi on parle de la fibre optique aujourd'hui, c'est parce que on voit bien que les technologies ont toutes leurs limites. Aujourd'hui, la DSL a rendu un service, c'est de permettre le passage de la connexion discontinue, qui était avant avec le réseau téléphonique commuté. On établissait une communication quand on avait besoin d'échanger. La DSL, c'est en quelque sorte, avec le câble aussi, la première technologie de connexion permanente. C'est-à-dire que notre réseau rentre complètement de manière permanente dans notre consommation quotidienne. On n'est pas en train d'établir une communication. La communication est établi de façon permanente. Mais si cette technologie de connexion permanente a permis une évolution, elle a aussi montré des limites. La connexion permanente utilisant des réseaux qui n'ont pas été faits historiquement pour cela, pour aller de plus en plus vite, de plus en plus, on va dire, fort dans les services que l'on développe, eh bien, il y a des performances technologiques qui sont limitées, notamment la voie de retour. Par exemple, la DSL, on sait très bien que plus on s'éloigne du point source, plus la qualité baisse. Évidemment en flux, ce qu'on appelle en download, et donc le débit qui vient du réseau vers l'usager, et également, encore plus, en upload, c'est-à-dire du débit qui remonte de l'usager vers le réseau. Donc, premier élément qui pose un problème dans les technologies actuelles, c'est qu'il y a une différenciation de la qualité de service en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le réseau. Ce n'est pas nécessairement... Et pourtant, vous payez le même prix. Si vous êtes à 1 km du central ou à 500 mètres, vous n'avez pas le même service. Vous payez toujours 29,90 € si vous êtes chez un opérateur bien connu. Mais je dirais que c'est un premier élément qu'avec la technologie, par exemple optique, on peut effacer. La distance n'a plus d'impact. Deuxièmement, c'est effectivement cette asymétrie des flux. Pourquoi on recevrait plus de débit qu'on en émettrait? Ça vient à la fois d'une contrainte technique, mais aussi d'une vieille habitude qui consiste à dire l'utilisateur, c'est plutôt quelqu'un qui est un spectateur et pas un acteur. Or, on voit que les usagers sont de plus en plus en train de devenir des acteurs du numérique. C'est ce qu'on appelle sous le vocable 2.0, on va dire le web 2.0, et tout
les gens qui font leurs propres vidéos, leurs propres télé, sur leur blog, etc. Donc, un certain Jean-Michel Billot, d'ailleurs, qu'on aurait aimé avoir avec nous aujourd'hui, mais qu'on aura une prochaine fois.
Voilà. Et donc, deuxième élément, c'est pouvoir émettre autant qu'on reçoit d'une certaine manière. Et puis, troisième élément, qui est tout aussi important, c'est la notion de temps réel. C'est-à-dire que là, c'est plus dans le domaine, bien sûr industriel ou de la santé qu'on a l'habitude de l'évoquer. C'est vrai qu'un chirurgien, s'il opère à distance et qu'il y a un temps de réponse entre l'image qu'il voit et l'action qu'il va mener trop importante,
ça, là, ça s'appelle la charge routière.
Ça peut être vital. Dangereux. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, c'est que dans un domaine beaucoup plus proche du quotidien, dans les loisirs, tout simplement, dans les jeux vidéo, vous avez notamment Cité Fibre et Dominique Lancrenant, qui était le patron de Cité Fibre, qui expliquait que...
Racheté par Free. Hein, par
voilà,
Free.
Voilà, que un des motifs d'abonnement d'une partie de la population à la fibre, c'était que dans les jeux en ligne, en réseau, les abonnés de Cité Fibre gagnaient toujours parce qu'ils voyaient leurs ennemis avant les autres, et donc ils pouvaient réagir beaucoup plus vite. C'est-à-dire que le temps, le ping sur le réseau fibre étant beaucoup plus rapide, ils avaient une interaction plus rapide avec le jeu.
D'accord, donc c'est assez 30 000 joueurs de World of Warcraft sont des clients tout désignés de la fibre optique. Alors.
Par exemple. Et donc on voit que ce soit dans un usage très professionnel ou loisir, cette notion de rapidité, ce temps de latence, comme on dit dans le jargon technique, va avoir une incidence sur l'arbitrage entre les technologies, et les usagers vont vouloir parfois avoir quelque chose de temps réel. Hein, et ça, c'est important. Alors, il y a d'autres applications qui viendront plus tard. La troisième dimension, enfin la réalité virtuelle, on n'en parle pas aujourd'hui, mais demain, on commence à parler de la télévision haute définition. Elle ne passera pas dans les canaux de la DSL, elle ne passera pas dans les villes, dans la TNT, il ne faut pas se faire d'illusions, le dividende numérique hertzien dans les villes ne permettra pas d'avoir 10 chaînes de TV HD. C'est pas possible.
Pourtant, c'est ce qu'on nous dit aujourd'hui.
Mais on pourra pas le faire. Il faudra le faire passer par des canaux filaires. Et là, la fibre optique va être utile.
Donc le développement de la télé haute définition passe par la fibre optique.
Dans l'urbain, c'est clair.
Christophe, vous aviez une question pour Pierre Beaufils, peut-être.
Oui, tout à fait. France Télécom mène ses expérimentations justement pour déterminer les usages et essayer d'avoir un modèle commercial autour de cela. On parle beaucoup de l'ARPU, de revenus moyens par abonné. Est-ce que la fibre, justement, avec donc on évoquait peut-être la vidéo en demande aussi, mais les jeux vidéo, etc. Est-ce que ce ne sera pas un moyen de développer donc le revenu par abonné pour les opérateurs?
Pierre Beaufils.
Alors, excellente question, puisqu'à la fin, c'est quand même d'abord tout part de... Enfin, en tout cas, tout finit chez le client et sur ce qu'il est prêt à payer. Donc, là, Stéphane nous a fait un excellent point sur ce qui était possible de faire. Si on se positionne de l'autre côté du point de vue client, chez Greenwich, on a beaucoup travaillé là-dessus avec notre équipe suédoise, parce que la fibre à Stockholm s'est déjà déployée depuis 2001-2002, donc on a regardé les consommations, les niveaux d'ARPU. Alors, je vais évacuer la question d'ARPU tout de suite, et puis je vais y revenir, c'est que on est en France sur une situation complètement anachronique d'ARPU par rapport aux autres pays sur l'accès au débit.
C'est-à-dire
qu'aujourd'hui on est extrêmement bas,
ouais.
Puisque aujourd'hui en Angleterre ou en Allemagne, vous allez trouver un 2 mégabits, qui est l'offre phare aujourd'hui, pour environ 40 pounds, donc environ 60 euros. Alors au coût de la vie comparé, on va dire 40 euros et 45 euros en Allemagne. Et d'ailleurs nos voisins anglo-saxons, allemands et anglais se demandent bien comment on a pu se mettre dans une affaire pareille. Parce que donc voilà, je vais revenir après sur les ARPU, mais pour revenir sur l'usage, le point clé pour nous, hein, c'est que ce qui va driver la fibre, c'est quand même avant tout la TVHD.
D'accord.
La TVHD, parce que...
C'est ce que disait Stéphane Lelux, hein, c'est que la télé reste quand même, malgré ce qu'on dit, un phare pour beaucoup de Français dans la consommation de loisirs.
Absolument. Et la TV est quand même peut-être l'équipement qui, chez les Français, est supérieur en téléphonie. C'est le seul, et à partir de là, il y a un driver sociétal très fort, et la TVHD peut représenter un véritable changement, et c'est la seule qui justifie un niveau de débit significativement supérieur. Le deuxième point, c'est les user generated content, donc ce que produit l'abonné. Aujourd'hui, on est sur des taux d'équipement foyer. 70% des foyers sont équipés en DVD de salon. 50% des foyers ont un appareil photo numérique. Aujourd'hui, 86% sont équipés de téléphonie mobile. On arrive à des niveaux d'équipement qui font que le multi-usage montant et descendant, c'est-à-dire depuis le client vers d'autres clients et depuis l'Internet vers les clients, est considérable. Et donc aujourd'hui, je finis là-dessus sur les usages, c'est que la fibre est quand même le seul support aujourd'hui qui va permettre à un foyer numérique on va dire, diversifié, de réellement travailler et échanger du montant, c'est-à-dire ma vidéo vers mes amis, mes photos vers mes amis. On parle quand même de photos, on est en 7-8 millions de pixels aujourd'hui, donc chaque photo pèse plusieurs mégas, c'est pénible, on envoie un album entier, c'est tout de suite 500 mégas, 1 giga. Donc, la capacité à échanger grâce à ce flux technique montant qui est aussi fort que le descendant, en théorie, en tout cas, d'avoir un foyer numérique complètement connecté.
Donc ça permet d'abandonner WinZip et de passer, en fait, de plus se préoccuper de savoir si la photo fait 3, 4, 5, 10 mégas, on envoie comme ça, et c'est de la facilité d'utilisation, quoi, finalement. Plus besoin de mettre les doigts dans les logiciels de compression ou...
C'est de la transparence, c'est-à-dire qu'en fait, il se passe une chose nouvelle, c'est que maintenant, l'OS, comme on disait, l'operating system des ordinateurs, il est dans le réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'ordinateurs s'ils ne sont plus connectés. C'est-à-dire que les nouvelles générations d'ordinateurs ne fonctionnent pas s'ils ne sont pas connectés en réseau. Vous achetez n'importe quel ordinateur aujourd'hui, vous êtes obligé de faire une release de votre logiciel au moment où vous l'allumez. Et il va se mettre à télécharger des tas d'applications et tous les jours, il va rajouter des choses. Aujourd'hui et demain, Google est en train de préparer une nouvelle génération d'applicatifs. Vous ne l'aurez pas sur votre ordinateur, vous l'aurez online. Et on est en train de voir, en fait, migrer le système d'exploitation et les couches applicatives dans le réseau. Et c'est ce qui va véritablement révolutionner les applications. C'est-à-dire que si vous avez des connexions très haut débit, vous pourrez profiter de ces applications en ligne. Et il ne faut pas négliger, on a beaucoup parlé du grand public, du mass market grand public, mais aussi les TPE et les PME, on n'en parle pas beaucoup.
Mais je voulais y venir.
Elles vont avoir besoin de ces applications.
Ça me semble très important quand même.
Exactement.
Ça. D'un point de vue économique, j'ai du mal à penser, moi, on a parlé au tout début de ce podcast, de la part de responsabilité et d'engagement nécessaire des pouvoirs publics pour arriver à un plan fibre national assez homogène et efficace. J'ai du mal à penser qu'on puisse convaincre un gouvernement, tel qu'il soit d'ailleurs, d'investir dans un plan fibre d'envergure uniquement à base de foyers numériques, j'envoie mes photos, je fais ma petite télé. Vous êtes sur le terrain vraiment purement économique, c'est-à-dire est-ce que c'est pas non plus dans une perspective d'aménagement du territoire assez forte qui permette effectivement peut-être d'arriver à cette fameuse décentralisation on court après depuis quelques décennies en France. Est-ce que des gros tuyaux qui permettent à une PME d'Angers de rentrer en communication avec le cœur défense pour pouvoir faire des échanges de formations, de fichiers, etc. Est-ce que c'est pas sur ces questions-là, télémédecine, télétravail, téléformation, qu'on va peut-être réussir à avoir un plan fibre national soutenu par les politiques? Stéphane, et puis ensuite Pierre Boffy sur ce point-là.
C'est vrai, Philippe, que c'est un enjeu qui dépasse, on va dire aussi, le simple aspect ludique qu'on a évoqué tout à l'heure, ou l'aspect télévisuel. Je crois qu'il faut regarder ce marché comme un potentiel de développement pour la création d'emplois et de services nouveaux. C'est-à-dire que si le marché intérieur français est très dynamique. Et c'est vrai que, comme le rappelait Pierre, on a des prix les plus bas d'Europe et parmi les plus bas du monde, ramenés au niveau de service que l'on produit. Mais c'est un atout, quelque part. C'est un atout si on consomme des services produits par des sociétés de services françaises, par des acteurs du contenu français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a les autoroutes qui sont les moins chères du monde. La question, c'est est-ce que les stations de service et les produits qu'on va vendre dans les stations-service très haut débit seront produits en France. Et là, il y a un enjeu. Et là, il y a un enjeu politique majeur. C'est-à-dire que 25% des diplômés de Bac plus 3 trouvent des débouchés dans le secteur des TIC aujourd'hui.
Technologie de l'information et communication.
Voilà, exactement. Et est-ce que l'avenir d'un pays qui, effectivement, s'interroge beaucoup sur sa capacité dans le domaine industriel ou dans des domaines de compétitivité qui ne sont pas nécessairement évidents au moment où il y a l'ouverture, la mondialisation, notamment avec des pays comme la Chine ou l'Inde, est-ce que l'une des vocations dans les secteurs majeurs de développement d'emploi futur, c'est pas justement pas la puissance de son marché intérieur dans le domaine du numérique, de permettre que ce soit pour les loisirs, pour les entreprises, pour les services publics, dans la santé, dans l'éducation, la formation, d'avoir, de par cette capacité d'écouler des services, la capacité à créer de la valeur ajoutée, donc de l'emploi, grâce à ces réseaux. Et je crois que c'est là où il y a un vrai enjeu. Et quand on parle d'un plan fibre, l'enjeu, c'est pas de savoir si on va dépenser des milliards. Bien sûr, ça crée de l'emploi dans le génie civil, dans la fabrication de câbles. Mais je pense que le vrai enjeu, c'est l'emploi dans le domaine des services qui va pouvoir se développer sur ces réseaux. Et ça, c'est vraiment, c'est les stations-service et le contenu des stations-service de ces réseaux très haut débit. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui doit concerner le politique.
Pierre Beaufils, pour conclure, parce qu'il faut conclure, justement, aménagement du territoire, est-ce que, effectivement, vous partagez l'opinion de Stéphane Leluc sur la nécessité de voir on remet pas en question, attention, hein, les loisirs numériques, c'est très bien, hein, mais conditions nécessaires mais pas suffisantes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut avoir un peu plus d'ambition industrielle et économique, tout simplement, autour de ce plan fibre?
Je suis plus mesuré pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui la plupart des entreprises en zone urbaine sont relativement bien connectées en y mettant le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez par n'importe quel opérateur entreprise, France Télécom, Neuf, Colt et autres, du débit. C'est plutôt une question de prix. Alors effectivement, il y a des zones blanches, mal couvertes. Mais celles-là, il ne faut pas rêver, elles seront encore plus mal couvertes en fibre. Aujourd'hui, la fibre, c'est quand même la quintessence de la fracture numérique, aujourd'hui. C'est-à-dire le déploiement sur des zones très denses, faciles d'accès. Donc on ne va pas, à mon sens, sans choix politique, fort, vers le déploiement de fibres rurales, sûr que non, en petite densité ou en faible densité, c'est possible. Donc là, effectivement, je suis bien d'accord avec vous, c'est que si les régions et les mairies ne se prennent pas en charge pour être en mesure de faire des pôles de compétitivité à très haut débit avec des accès fibres particuliers. Mais ça, ils peuvent déjà le faire aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, vous appelez France Télécom, vous leur demandez de vous connecter en 100 mégabits, ça vous coûte une petite fortune, mais vous le faites. Donc une mairie qui investit n'a pas forcément besoin de tirer de la fibre comme à Pau, peut très bien déjà connecter. Moi, je crois que le marché va décoller par le grand public quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les fournisseurs de TVHD, les producteurs de télé continuent de mettre la pression, si les bouquets satellites, les bouquets numériques continuent de mettre la pression sur les contenus foot, les contenus cinéma en HD, que les Web 2.0, les Google, les Flickr et autres fournisseurs, MySpace et autres continuent, la fibre va être un succès, à mon sens, commercial, grand public, dans les zones denses urbaines dès 2007-2008. Et à partir de là, on a une offre PME-TPE qui peut héberger. Mais je reviens sur le point des ARPU et des revenus tout à l'heure.
Revenus moyens par utilisateur.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas un opérateur de télécommunications qui peut gagner de l'argent à connecter une PME à 70 euros. Ou à 50 euros par mois. Donc là-dessus, pour gagner de l'argent pour un opérateur d'entreprise, il faut pouvoir connecter des gens à 500, 1000 euros par mois. Et la fibre bousille un peu ce business model aujourd'hui. C'est-à-dire que déjà le DSL avait raflé les TPE au résidentiel. La fibre, si elle se présume, n'importe quelle entreprise comme Tactis ou Greenwich va se connecter en fibre pour le prix de la DSL. Et n'ira pas voir son opérateur d'entreprise, mais ira voir son opérateur résidentiel qui lui connectera, certes peut-être avec un engagement de qualité moyen, mais 5 fois supérieur à notre besoin actuel de connectivité. Donc moi je le vois plutôt comme aujourd'hui une vraie difficulté à gérer, c'est que oui les besoins sont là, on voit bien le chirurgien qui ne se transforme pas en charcutier, c'est important.
C'est une boutade.
C'est,
hein.
C'est que ça n'est pour moi, nous sommes persuadés chez Greenwich que le développement passera par l'explosion du résidentiel.
Et ben ça sera la conclusion de ce podcast. Pierre Beaufils, donc président de Greenwich Consulting, merci. Stéphane Leluc, président de Tactis, merci beaucoup. Merci. Christophe Guillemin, merci. On a fait un peu plus de 45 minutes sur la fibre optique. La semaine prochaine, on se retrouvera, on parlera d'un autre sujet, la vidéo on demand, les enjeux entre les opérateurs de télécommunications, les acteurs du cinéma, comment tout ça se combine, est-ce qu'ils vont s'entendre, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce marché en 2007. C'est terminé pour aujourd'hui, à la semaine prochaine, merci, au revoir.
Club ZDNet, chaque semaine, le rendez-vous des acteurs qui font l'actualité IT.